concernant cette convention, juste pour dire que c'est un marché, un groupement de commandes, donc qui portera sur, sur 4 ans et qui portera sur un montant prévisionnel d'achat à hauteur de 100 000 euros. Voilà.
Des questions sur ce dossier ? Non ? Donc je le soumets au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci. Madame Oumadi, la désignation des membres du conseil d'exploitation d'Anima.
Alors, juste avant, je voudrais profiter pour vous distribuer le rapport d'activité du bilan de 2020 du CAVL Anima. Je vous fais passer au fur et à mesure. Je vous proposerai que lors d'un prochain conseil municipal, on puisse répondre à des questions si vous en avez. Est-ce qu'il y en a assez ? Démission du conseil municipal de Madame Marie Combo, il convient de désigner un nouveau représentant du conseil d'exploitation d'Anima. Madame Marilyn Coinda est proposée au sein du collège des élus du conseil d'exploitation d'Anima. De plus, suite à la dissolution de l'association Oasis, lors d'une assemblée générale extraordinaire du 19 janvier 2021, il est proposé de la remplacer par l'association Aliso, qui agit auprès de la vie associative et de la jeunesse dans notre cité. Cette association siégera au sein du Collège des associations. Enfin, il est proposé de remplacer Madame Sanda Ondjamia, suite à des changements personnels et professionnels, par M. Xavier Bonaparte, adhérent auprès d'Anima pour siéger au sein du Collège des habitants. Il est demandé au Conseil municipal d'approuver ces propositions.
Y a-t-il des questions sur ces nominations ? Non ? Donc je vous propose d'approuver ces nominations. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Merci.
Je voulais en profiter pour vous indiquer et qu'on puisse le relayer. Samedi, Anima organise effectivement dans les trois quartiers des opérations de collecte. Ça devait être fait également il y a 15 jours, mais ça n'a pas pu parce qu'il faisait vraiment pas beau. Donc c'est samedi de 14 à 16h30. Et donc on va vous adresser, on va essayer de recommuniquer. On vient de les voir là, on vient de discuter avec Delphine Guerrier pour qu'on soit le plus nombreux, effectivement, y compris dans les quartiers. Voilà.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Et c'est important que les élus participent à ce genre d'opération, bien sûr. Convention de collaboration Anima CAVL de Guéret avec Aliso.
Considérant la validation par le conseil d'exploitation CAVL Anima de la nouvelle version de collaboration pour 2021 inscrite dans la convention présente en annexe. Considérant le vote du budget 2021 et notamment le versement des subventions aux associations, il est présenté la délibération ci-dessous. Lors de la délibération numéro DEL 2016-115, en date du 19 décembre 2016, il a été convenu d'apporter une aide financière à Aliso afin qu'elle puisse concourir aux différents objectifs s'agissant du projet social d'Anima, centre d'animation de la vie locale de Guéret, pour la fonction accueil et pour les actions envers la population guérétoise. La ville de Guéret a accordé pour 2017 la somme de 11 400 euros pour la fonction accueil et la somme de 17 500 euros pour le fonctionnement de l'association de la ville. Pour l'année 2018, Anima CAVL a déposé son projet social 2018-2021 auprès de la commission sociale de la Caisse d'allocation familiale 23 pour son renouvellement d'un agrément pour une durée de 4 ans, qui lui a été accordé tout en précisant davantage le rôle et les tâches à effectuer au sein de la fonction accueil par Aliso. Ceci est représenté dans la convention passée dans le cadre de l'attribution d'une subvention municipale. Pour l'année 2021, Anima a pris en compte la demande d'Aliso pour diminuer le nombre d'heures consacrées à la fonction accueil, passant de 28 heures à 21h, ainsi que de préciser davantage le rôle d'Aliso sur les articles 1 et 7 de la convention présentée en annexe. Pour poursuivre ses missions, Anima accorde une aide financière de 8 550 euros, proratisée pour 21 heures semaine dédiée à la fonction accueil et 17 500 euros pour les actions liées au projet associatif envers la population guérétoise pour l'année 2021. Il est demandé au conseil municipal d'approuver cette répartition et d'autoriser Madame le maire à signer la convention de collaboration pour l'année 2021.
Donc il s'agit effectivement de répondre au vœu d'Aliso de diminuer sa participation à la fonction accueil qui bien entendu est reprise par Anima, donc avec une diminution bien entendu de la subvention qui était liée à la fonction accueil. Est-ce que vous avez des questions, Monsieur Vernier ?
Oui, je ne comprends pas bien l'utilité de diminuer la fonction. Aliso, il y a toute une histoire, hein, ça remonte au bureau d'information jeunesse, qui a été ensuite transformée, c'était quand même une fonction en direction des jeunes. Alors là, si je comprends bien, sa fonction, c'est pour ça que je n'ai pas posé la question tout à l'heure, son périmètre va être élargi, parce que quand on dit Aliso va remplacer Breza, va remplacer l'association qu'il y avait, ce n'est pas possible dans la situation, c'est une autre chose, ce n'est pas le même périmètre déjà, je suppose qu'Aliso, ça ne sera pas quartier, mais que ça va être étendu à l'ensemble de la ville. Et ce rôle qu'il y avait auprès des jeunes, notamment pour les jobs d'été, les orientations, les recherches de logement, et puis d'où est-ce que ça veut dire qu'il y a moins de demandes, il y a plus ce besoin-là, où ça prend une autre, ce qui est peut-être possible, hein, où ça prend une autre tournure, une autre dimension. Mais je rappelle qu'à l'origine, Aliso, c'était un point d'accueil pour les jeunes, et notamment les demandeurs en plus de la mission locale, hein, ce qui n'avait rien à voir, mais avec des missions tout à fait particulières autour de la jeunesse.
Alors effectivement, on propose de remplacer Oasis par Aliso justement pour permettre cette continuité-là, à la fois de permettre à Anima de travailler avec une association qui est en lien, en réseau avec différentes associations et rester sur le domaine associatif et toucher cette tranche de population. Par rapport à cette demande d'Aliso de diminuer les heures d'intervention, c'est en fait un constat des deux partenaires, Anima et Aliso, qui se sont rendus compte que finalement, c'était pas possible pour eux de remplir cette fonction accueil comme ils le souhaitaient dès le départ. Donc, avec réflexion, ils ont convenu que voilà, ils avaient atteint certaines limites, mais que ça n'empêchait pas de continuer le travail avec Aliso. Donc d'où cette proposition-là par rapport au conseil d'exploitation. Et justement, Anima, c'est un centre d'animation de la vie sociale qui doit justement remplir totalement cette fonction accueil qui, par cette première expérience qu'il a pu avoir avec Aliso, va pouvoir utiliser cette expérience pour pouvoir améliorer totalement sa fonction accueil qu'elle pourra travailler dans le prochain projet social de Anima.
D'accord. Alors, ça pose la question d'envers, du coup, les jeunes. Moi, je repense à ces jeunes étudiants, ces jeunes adolescents, ces jeunes demandeurs d'emploi qui allaient vers Aliso pour un certain nombre de problèmes de la vie quotidienne très précis. Ils auront toujours, ils trouveront toujours un guichet pour répondre à ces questions-là, qui sont des questions très importantes. Je rappelle que Guéret était le bureau d'information jeunesse départemental à une époque. J'ai l'impression que les actions en direction de la jeunesse s'effritent un peu. C'est pas la ville qui est responsable, hein. C'est pas ce que je veux dire. Mais j'ai l'impression que ça va se faire un petit peu au détriment des jeunes et ça m'ennuie.
On perd que 7 heures d'accueil.
Parce que quand on dit qu'ils ont atteint leurs limites, je ne sais pas ce que ça veut dire, moi.
On est tous destinés à optimiser, je pense, les interventions des uns et des autres. Donc, on perd 7 heures d'accueil d'Aliso que le CAVL va reprendre sans aucun souci. Donc, les jeunes vont trouver le même service qu'ils avaient jusqu'à présent, avec juste un interlocuteur différent sur 7 heures sur 28. Et ça permet d'optimiser aussi la présence d'Aliso sur un autre secteur qui sera l'ancien local d'Oasis. Donc l'idée, c'est pas de diminuer la prestation, c'est peut-être de l'optimiser au contraire et de l'ouvrir à d'autres jeunes qui venaient peut-être pas sur le centre-ville pour rencontrer ces acteurs-là. Donc l'un dans l'autre, tout le monde de concert a estimé que le fonctionnement serait meilleur pour la jeunesse de Guéret et pas du tout dans le sens de réduire le service ou de le minimiser, bien au contraire. C'est vraiment quelque chose qui a fait consensus et le CAV Anima reprendra le flambeau sans aucun problème. Bon, la fréquentation sur le centre-ville ne nécessitait pas 28 heures d'accueil de la part d'Aliso. Par contre, sur les quartiers, là, je pense qu'on va pouvoir optimiser cet accueil. Voilà, c'est aussi quelque chose qui pourra, à l'usage, être revu si nécessaire.
Voilà. Je pense qu'il est vraiment important de repenser cette fonction.
Ça veut dire aussi que toutes les actions qui étaient faites par Oasis, et je pense notamment au soutien scolaire, à l'aide à la parentalité, seront reprises, là aussi, par Aliso ou par Anima.
Je crois qu'il y a un malentendu.
Ce qui m'a gêné, c'est de lire « Aliso remplace Oasis ».
Non, c'est un malentendu. Je pense qu'il y a un quiproquo, peut-être.
Je pense que dans la délibération, c'est dit comme ça.
C'est dans le conseil d'exploitation d'Anima que Aliso va prendre la place par rapport à Oasis, qui a été malheureusement dissoute.
Oui.
Mais en aucun cas, ils vont reprendre. On ne parle pas ici que Aliso va reprendre le local de Brésard. Hein. On ne parle pas de ça. Hein.
Non, mais donc, d'accord. Donc, il restera sur ce quartier un problème par rapport à l'accueil scolaire, enfin, tout ce qui se faisait par Oasis. Donc, la disparition d'Oasis n'est pas une bonne nouvelle.
Non, mais c'est en train de se travailler.
Je ne comprends pas.
Il y a un comité.
Alors, après, par rapport. Parce que ça, c'est une autre question. C'est un autre sujet totalement. Par rapport à ce local qui n'a plus de référent pour les.
Non, j'ai compris. Oasis est dissous.
Pour la population, il est en train de se travailler actuellement un projet avec les différents acteurs institutionnels de Guéret pour pouvoir trouver une solution, pour pouvoir apporter quelque chose à la population située sur Brésard et peut-être autour, un peu plus largement.
D'accord.
Mais c'est vraiment deux sujets différents.
Comme ça, je comprends. Ça veut dire que Oasis, bon, malheureusement, on connaît les difficultés qu'a eu Oasis ces dernières années, et malgré les interventions des uns et des autres, on arrive à une disparition. On l'appelle comme on veut, mais ce n'est pas Aliso qui remplace. On recherche en même temps une solution pour que Oasis, sous une autre forme, puisse, enfin une association ou je ne sais pas quoi, exercer les actions qui étaient exercées auprès des habitants de Brésard en particulier, notamment des jeunes, qui étaient très importants, je pense, je le répète, à tout ce qui est soutien scolaire, aide à la parentalité et des choses. Je rappelle qu'à un moment, il y avait un permanent. Donc, on se dit qu'il faut trouver une autre structure. Voilà, ça me va. Mais dire qu'Aliso remplace, j'ai compris ça dans la libération, ça ne me va pas, ça ne m'allait pas.
Non, au sein du conseil. L'idée pour le local.
Non, mais ça me va, j'ai compris.
Ce qui se travaille pour le local avec la CAF, avec Rosalys, avec tous les partenaires, c'est effectivement un réinvestissement de ce local, peut-être par plusieurs associations qui vont se compléter pour apporter un soutien plus global à la population. Voilà.
Madame la maire, j'ai compris. Tout à l'heure, je n'avais pas compris.
Monsieur Dubois, vous vouliez prendre la parole ou j'ai mal vu? Non? D'accord. Ah, Monsieur Correa, j'avais vu une main.
Juste par rapport à, si j'ai bien compris, par rapport à ce que disait Michel Vernier, Aliso continue son accueil au niveau des étudiants. Hein, c'est effectivement marqué dans leur objet. Là, il s'agit juste de ce qui concerne la mission entre Aliso et la ville, donc qui est forcément peut-être qu'une partie des missions d'Aliso, mais l'accueil d'étudiants est continu.
En fait, il y avait une fonction accueil qui était mutualisée, mais Aliso garde bien sûr toutes ses préconisations. Mais sur la fonction accueil mutualisée entre Aliso et le CAVL va reprendre une plus grosse part et Aliso va diminuer sa part de 7 heures, c'est tout. Mais la présence est toujours là et puis leur projet social est bien toujours le même, bien sûr.
Non, mais je dis ça parce que les bureaux d'information jeunesse, tels qu'ils existent et tels qu'ils existaient, c'était un label jeune. Il ne faut pas oublier, donc si on diminue l'accueil jeune, il faut trouver une autre solution. Voilà.
Je le redis, l'accueil va être assuré par Anima. Y a-t-il d'autres interventions ? Donc, je vous propose donc d'approuver cette répartition entre Anima et Aliso. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Je vous remercie. Monsieur Mouteau, pour l'étude énergétique des bâtiments.
Alors, le volet écologique du plan de relance décidé par l'État pour redresser rapidement et durablement l'économie française prévoit une intervention pour la rénovation énergétique des bâtiments des collectivités à hauteur de 650 millions pour le bloc communal. Le ciblage de cette rénovation énergétique s'entend au sens large avec notamment des actions dites à gain rapide, des travaux d'isolation du bâti ou de remplacement d'équipement, des opérations immobilières ou de réhabilitation lourdes, combinant plusieurs de ces travaux et pouvant inclure d'autres volets tels que la mise aux normes de sécurité d'accessibilité, le désémontage, le ravalement ou l'étanchéité du bâtiment. Dans ce cadre et dans l'objectif d'optimiser sa consommation d'énergie et par conséquent son budget, la ville de Guéret envisage d'effectuer des travaux de rénovation énergétique sur certains de ses bâtiments communaux, notamment l'IRFJS et la Maison des Associations. À cet effet, une étude comprenant un diagnostic énergétique complet s'avère nécessaire, ainsi que le cas échéant une étude de faisabilité de chauffage par des sources d'énergie renouvelables, bois énergie, géothermie, etc. Cette étude, dont le coût est estimé à 10 000 euros hors taxes maximum, peut être mise en charge par le syndicat départemental des énergies de la Creuse sur le plan financier, à hauteur de 65% du montant hors taxes permettant d'accompagner efficacement la prise de décision de la commune, cette dernière prenant en charge les 35% du montant hors taxes et la TVA. Dans ce cas, la réalisation de l'étude doit être confiée au SDEC par le biais d'une convention de mandat d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec délégation de la maîtrise d'ouvrage de l'étude dont le projet est joué en annexe. Le syndicat se charge ainsi de la gestion technique, administrative et financière de l'étude qui sera réalisée par un bureau indépendant. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de réaliser l'étude énergétique des bâtiments l'IRFRJS et la maison d'association et la confier au syndicat départemental des énergies de la Creuse, d'autoriser Madame le maire à signer la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée avec le SDEC correspondante et d'autoriser Madame le maire à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de ce projet.
Merci. Y a-t-il des questions sur ce... Oui, je vous en prie.
Oui, moi j'aurais voulu savoir, à propos de l'IRFJS, il me semble qu'il est en rénovation actuellement. N'y avait-il pas eu d'études énergétiques préalables ?
Non, il n'y avait rien eu de prévu. C'était juste de l'embellissement intérieur et du raménagement. Il n'y avait rien qui était prévu en isolation extérieure ou remplacement éventuel de chauffage.
C'est pas quelque chose d'obligatoire
Non, pas forcément. C'est en fonction de l'enveloppe qu'on veut attribuer aux travaux.
Ok, merci.
De même que sur la maison des associations, vous avez eu des travaux très importants qui viennent d'être faits. C'est pareil, la rénovation énergétique n'avait pas été prévue. Donc on va essayer de se raccrocher effectivement au plan de relance à ce niveau-là. Voilà.
Parce que l'étude permettra comme ça de pouvoir effectivement se projeter dans l'avenir avec des gisements d'économie d'énergie et avec certainement effectivement des investissements, mais ensuite des gains en termes de fonctionnement. Puisqu'une fois qu'on aura isolé, qu'on aura pu après ce travail-là.
Et comment ça va être inclus en fait dans la phase travaux ? Comment on va pouvoir inclure en plus cette... Aménagement,
dans la phase de travaux actuelle ?
Oui.
Ouais, ça, serait, budget... ça serait une autre phase de travaux. Hein, c'est
un, donc autre, ça sera, ça forcément,
c'est un autre chantier.
Ça fera, un autre chantier. Ouais, okay. Très bien, merci.
Juste, même si l'étude finalement à 10 000 euros reste assez peu élevée, il reste 35% à la charge de la ville. Je sais, enfin, peut-être demander à la région peut-être 15% pour arriver à 20%, je ne sais pas. En tous les cas, ça vaut peut-être le coup d'essayer parce que la région finance aussi là-dessus, et y compris après sur les travaux. Tout ce qui est transition énergétique des bâtiments et réduction, l'État a un grand plan de relance, mais c'est aussi dans la volonté de la région, il y aura aussi de l'argent de disponible. Voilà, donc peut-être que de demander sur l'étude permet aussi à un moment donné de se positionner s'il y a réalisation de travaux derrière. Voilà, ça vaut peut-être le coup de voir ce qui est éventuellement possible de faire. Alors, il n'y a plus de commission permanente maintenant, ça sera dans le futur, mais cette compétence-là restera de toute façon, et cette volonté restera, quel que soit, je pense, à la région. Mais ça veut aussi dire peut-être que si c'est un accord, l'argent serait peut-être donné fin 2021 ou 2022, le temps d'instruire tout le dossier, mais peut-être que ça vaudrait le coup de... Voilà, pour deux vertus, à la fois avoir les 15%, même si ça ne représente pas grand-chose, mais ça permet de montrer aussi que ben, plus tard, il y aura peut-être des travaux, quoi.
Oui, c'est une excellente suggestion, Monsieur Correa. Je vous en remercie. Donc, on va procéder à cette demande. C'est une très, très bonne idée. Donc, sur ce dossier, y a-t-il d'autres interventions? Donc, je le soumets à votre approbation. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Toujours Monsieur Mouto pour une convention de servitude avec Enedis.
Approbation d'une convention de servitude avec Enedis. Dans le cadre de travaux d'amélioration du réseau électrique, Enedis doit déployer une nouvelle ligne basse tension dans la parcelle BS85 dont la ville de Guéret est propriétaire, afin de raccorder au réseau existant un nouveau coffret de branchement situé au domaine privé, conformément au plan joint en annexe. A cet effet, en complément de la permission de varie délivrée pour ce qui concerne l'occupation du domaine public de l'avenue de la Sénatorie, le projet de convention de servitude, également joint en annexe, a été établi. Cette servitude fera l'objet d'une compensation financière forfaitaire de 20 euros qui sera imputée en recette à la fonction 810, aménagement et services urbains, environnement, services communs, article 70-323, redevance d'occupation du domaine public communal, du budget principal. Il est proposé au conseil municipal d'approuver cette convention de servitude et d'autoriser Madame le maire à la signer, ainsi que tout document nécessaire à l'aboutissement de ce dossier.
Des questions sur ce dossier? Non, donc je soumets à votre approbation. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. On passe à complètement autre chose avec Madame Adrien sur la stérilisation des chats errants.
Alors, la municipalité de Guéret bénéficie en 2020 de l'aide de la Fondation 30 millions d'amis pour la mise en place d'une convention pour la stérilisation et l'identification des chats errants sur la commune. Cette convention étant arrivée à terme et ayant à cœur de poursuivre l'action afin de maîtriser les populations de chats errants, la municipalité souhaite renouveler la convention pour 2021. Les frais de stérilisation et de tatouage des chats errants sont estimés 80 euros pour une femelle plus le tatouage, 60 euros pour un mâle plus le tatouage. C'est pourquoi il est proposé aux membres du conseil municipal de verser une participation sous forme d'acompte et à hauteur de 50% des frais de stérilisation et de tatouage. Sur la base d'une population de chats errants à stériliser estimée à 30 chats pour 2021, cette contribution inscrite dans le cadre de budget primatif s'élèverait à 1 050 euros maximum. La fondation 30 millions d'amis réglera directement les vétérinaires choisis par la municipalité de Guéret sur présentation des factures des praticiens. D'autoriser Madame le maire à signer la convention à intervenir.
Bien, est-ce que vous avez des questions autres que médicales? Parce que là, je ne pourrais pas répondre sur ce dossier.
Mais ce n'est pas un petit sujet, vous avez raison. Vous avez raison de prendre cette délibération. Ça en profite pour saluer les gens qui travaillent bénévolement à l'école du chat et qui permettent, Guéret est envahi dans certains endroits de chats, et c'est des gens qui aiment les chats, qui les traitent avec beaucoup, beaucoup de tendresse, et on ne peut que les saluer, les remercier. Moi, je suis très content de voter cette disposition qui poursuit celle qu'on avait prise la dernière fois.
Et puis signaler que la municipalité met à disposition une petite maison aussi pour l'école des chats, pour qu'elle y mette pendant un mois les chats qui sont en convalescence. Voilà. Y a-t-il des questions, Monsieur Correa?
Justement, alors, Avant, je crois qu'on travaillait avec l'école du chat, mais là, c'est 30 millions d'amis, c'est la même chose ?
Oui, d'accord. Ils travaillent avec 30 millions d'amis.
Merci, madame la maire. Et la deuxième chose, c'est la ville qui choisira le vétérinaire.
Non, c'est l'association qui les choisit.
Donc c'est un vétérinaire de
c'est une convention, c'est un vétérinaire de Guéret.
D'accord.
Pas d'autres questions ? Bien, donc je vous propose d'autoriser à signer la convention à intervenir. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Monsieur Pingot, pour une proposition de don pour le musée.
Oui, effectivement, en décembre 2020, la ville de Guéret a reçu une proposition de don pour le musée d'art et d'archéologie d'une huile sur bois représentant le fils Turgis par Auguste Leloir. La maison Turgis est une maison d'édition créée en 1837, particulièrement connue pour son commerce d'estampes, surtout de l'imagerie religieuse, mais aussi des reproductions d'œuvres d'art. Elle est gérée successivement par les frères Auguste et Louis qui développent le commerce familial aux États-Unis et en Amérique latine. Auguste Leloir est le père de Maurice Leloir. Il a lui-même souvent séjourné à Guéret. Le musée de Guéret conserve de nombreuses aquarelles de cet artiste représentant des paysages creusois. Plusieurs de ses peintures sont exposées dans la salle du musée. Ce portrait illustre les liens qui pouvaient exister entre l'artiste et l'éditeur d'estampes qui permettait de diffuser les œuvres et de se faire connaître. Vu l'avis très favorable de la commission scientifique régionale du 24 février 2021, il est demandé au conseil municipal d'approuver cette acquisition et d'autoriser Madame le maire à l'affecter aux collections du musée d'art et d'archéologie. Elle sera alors inscrite à l'inventaire réglementaire du musée.
Y a-t-il des questions ? Donc je vous propose d'autoriser l'acquisition de cette très belle huile sur bois. Donc y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci. Demande de subvention à la DRAC, Monsieur Pingot.
Le musée d'art et d'archéologie de Guéret, créé en 1832, est installé dans l'hôtel de la Sénatorerie depuis 1907. Labellisé musée de France, fait actuellement l'objet d'une ambitieuse opération de restructuration comprenant la construction d'un bâtiment de réserve aux normes muséographiques visant à assurer la conservation des collections, le déménagement des collections et le réaménagement des salles du musée. Dans la continuité de ce chantier architectural, il est envisagé de procéder à des travaux d'entretien et d'embellissement dans l'hôtel de la Sénatorerie en prévision de la réouverture au public et de l'attractivité que celle-ci va susciter auprès du public local comme national. Ceux-ci amélioreront l'écrin des œuvres d'art et valoriseront le bâtiment historique qui conserve une partie de son décor d'origine de la fin du XVIIIe siècle, plafond stucqué, décor peint et parquet Versailles. Le bâtiment n'ayant pas connu de grands travaux de rénovation depuis le début du XXe siècle, il est nécessaire de procéder à un diagnostic pour évaluer l'état de l'existant qui renferme les collections du musée et doit en assurer la conservation. Ce diagnostic s'accompagnera de scénarios de rénovation intérieure, d'un chiffrage et d'une priorisation des travaux ainsi que d'un planning prévisionnel. Ce document servira d'outil à la prise de décision sur les travaux à effectuer. Cette mission pourrait bénéficier du concours financier de l'État. Juste pour un petit point pour les personnes qui ne connaissent pas très bien le musée, ça concerne la partie de l'ancien musée. Voilà, pour que tout le monde soit d'accord. Donc le plan de financement prévisionnel, c'est une demande de 15 000 euros tout compris. Et la demande de subvention équivaut à 80% de ce chiffre. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à solliciter pour l'action précitée une subvention d'investissement au taux le plus élevé possible auprès de la DRAC.
Voilà, effectivement, il nous semblait qu'à côté de la belle réalisation qu'il va y avoir, le musée visité par les visiteurs avait besoin aussi d'un petit coup de gel. Il y a des pièces qui sont très, très vieilles, il va y avoir des problèmes aussi d'accès. Donc l'idée, c'est de demander un diagnostic pour pouvoir aussi faire profiter le vieux musée d'une opération de rajeunissement. Y a-t-il des questions sur le sujet ? Donc quand le diagnostic nous sera proposé, on le reverra en conseil municipal. Donc des oppositions, des abstentions. Merci. La demande de subvention de la Guérétoise de spectacle auprès de la DRAC.
Alors, s'agissant de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, la ville de Guéret sollicite une aide de 54 750 euros pour le fonctionnement de la saison culturelle, se décomposant, comme suit. 47 555 euros d'aide à la production et diffusion culturelle, 7 200 euros d'aide à l'enseignement facultatif théâtre au lycée Pierre Bourdon de Guéret. Concernant le conseil départemental de la Creuse, la ville de Guéret sollicite une aide de 25 000 euros pour le fonctionnement de la saison culturelle. Il est demandé au conseil municipal de valider ces demandes de financement pour la Guérétoise de spectacle et d'autoriser Madame le maire à signer tout document concernant ce dossier.
Des questions ? Oui.
Oui, précédemment la scène était conventionnée, donc c'était une labellisation. Est-ce que c'est de nouveau le cas ? C'est prévu ? Enfin, je ne sais pas exactement où on en est sur ce point-là, sur le point de la labellisation.
La labellisation, tu veux intervenir, nous est acquise.
Oui, la situation n'a pas changé. Il y a juste une nouvelle demande qui est en cours avec justement toute l'équipe de la Guérétoise de spectacle pour une nouvelle labellisation, mais au niveau national. Mais ça, en fait, on a toujours le même label.
C'était pas gagné, hein, puisque la DRAC souhaitait nous imposer une labellisation différente de celle qu'on a actuellement. Mais bon, pour le moment, la Guérétoise a eu gain de cause. Donc on est assuré de cette labellisation, oui. Qu'elle sera pérenne au moins pour 3 ans. Je pense que la DRAC reviendra en négociation pendant ce délai-là pour qu'on passe sur une autre catégorie de labellisation. Mais pour le moment, les choses sont assurées. Monsieur Correa.
Oui, enfin, juste effectivement, oui, c'est très important parce que normalement, nous, ce qui nous était remonté à la région de par la DRAC, c'est qu'il n'y avait plus le label. Donc normalement, selon le règlement intérieur, on aurait dû baisser la subvention de la région parce qu'on applique un règlement. Donc elle n'a pas baissé, elle sera la même cette année parce qu'effectivement, j'ai argumenté le fait qu'il y aurait des discussions en cours pour de nouveau avoir un label, c'est indispensable. Donc je me réjouis de savoir que ces discussions sont en cours et que c'est plutôt bien parti, je pourrais dire ça comme ça, parce que aujourd'hui, est-ce qu'on a un arrêté de la DRAC qui nous dit, par écrit, oui, vous êtes labellisé pour 3 ans, on a ce papier-là de la DRAC ?
Alors, moi, ça, je ne peux pas vous l'affirmer. Ce que je peux vous dire quand même, c'est que depuis septembre, on a l'assurance de la DRAC que notre labellisation sur les 3 ans sera pas remise en cause, avec l'idée de travailler avec eux sur 2. Donc,
mais si on peut, si vous pouvez obtenir un écrit.
D'accord. Hein, je ne sais pas si. Bon, avec le départ de Thomas Goupillou,
là, je ne peux pas répondre. Je ne peux pas certifier justement qu'on a un document écrit. Mais si.
À mon avis, il n'y en a pas. Parce que si c'est remonté à la région de cette manière-là, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Donc, si vous obtenez un document écrit, ça pérennise aussi d'autres financements. Mm-hmm. D'accord. Voilà, c'est tout. Hein. Parce qu'on a tous intérêt à ce que ça puisse être non seulement scène conventionnée par rapport au travail qui est fait, mais également par rapport à la possibilité de financement supérieur.
Évidemment.
Bon, on va vérifier si on a ou pas ce document, sinon on va le demander très très vite, on va voir ça avec, avec Hervé Herp. D'accord. On n'a pas voté, donc y a-t-il d'autres questions avant qu'on procède au vote ? Donc des oppositions, des abstentions ? Merci. Alors, les tarifs de la saison culturelle 2021-2022, toujours pour la Guérétoise.
Sous vos yeux, vous avez le tableau des tarifs avec le comparatif sur l'année précédente. Donc, c'était une augmentation, c'est une augmentation en moyenne d'1,39%. Nous avons fait le choix, et ça a été présenté à la dernière commission mixte, d'arrondir pour des raisons évidentes de simplicité pour rendre la monnaie. Donc nous avons arrondi les tarifs pour éviter des chiffres avec des 0,1 centimes. Nous avons aussi débattu lors de la commission mixte de ne pas faire d'augmentation applicable aux demandeurs d'emploi et minima sociaux. Donc le tarif reste équivalent à l'année précédente. Petit changement, et ça concerne les différents différents choix de pass, donc c'est en fin de tableau. Le pass 1, le pass et le pass 2. Alors de mémoire, parce que je ne sais plus exactement, je crois que le pass l'an passé était de. Le pass 1 était à 56 euros. On a décidé de baisser ces deux tarifs pour pouvoir justement avoir une visibilité un peu plus longue sur l'avantage de ce pass qui était vraiment pas c'était pas évident et surtout se vendait très mal. Donc il y a un réel choix de baisser le prix de ces deux passes pour au moins voilà, au moins attirer les gens un petit peu plus sur ce format de paiement. Et bien sûr le résultat de ce choix se fera en fin d'année. On essaiera de comparer justement aux années précédentes si ce choix est efficace ou non.
Intéressant ces passes parce que ça permet d'accéder à trois spectacles très corrects et puis ça permet aussi aux équipes de se projeter et de savoir combien de spectateurs ils auront sur les spectacles. Donc effectivement l'idée qu'on a évoquée en commission mixte, c'est bien de faire des statistiques en fin d'année pour voir si ce pass est rentable ou pas, ou s'il faut de nouveau travailler dessus pour qu'il soit attirant pour les spectateurs. Est-ce qu'il y a des questions sur ces Madame Bonin ?
Non, plutôt une remarque, mais Monsieur Pingot l'a souligné. C'est vrai que nous avons été très contents de la prise en compte de notre remarque sur le maintien du tarif pour les demandeurs d'emploi, notamment, et les minima sociaux. Et sans doute que dans des prochaines commissions, on pourra aller un peu plus loin, peut-être, sur l'élaboration des tarifs ensemble.
C'est bien le but des commissions, hein, de pouvoir échanger, de pouvoir faire évoluer les propositions au fur et à mesure. Donc on y travaillera très très volontiers.
Donc, il est donc demandé au conseil municipal d'approuver les nouveaux tarifs de la saison culturelle 2021-2022 de la ville de Guéret, présentés dans le tableau ci-dessous.
Y a-t-il d'autres interventions avant qu'on procède au vote ? Donc des oppositions, des abstentions ? Merci. Madame Tonduf, pour la mise en œuvre de l'OPARU. Alors, j'en profite juste pour faire une petite parenthèse par rapport à ce que vous disiez, Monsieur Correa, en ce qui concerne le Cabas-Creusois. Entre-temps, là, on a une proposition qui semble beaucoup plus esthétique que nos panneaux orange et blanc pour pouvoir limiter l'espace. Donc, avec des bornes cabestan intercalées avec des jardinières de fleurs. Donc, ça sera plus joli. Plus esthétique que ce qu'on a fait l'année dernière et tout aussi sécure. Voilà, Madame Tonduf.
Oui. Je vais vous épargner le premier paragraphe qui reprend les délibérations. Donc l'OPRU définit et met en œuvre sur la période 2021-2026 plusieurs dispositifs opérationnels d'intervention visant l'amélioration du parc immobilier et du cadre de vie. Repérage, veille, contrôle du parc immobilier déficient. Incitation financière des propriétaires occupants et bailleurs privés à la réhabilitation des logements et dispositifs coercitifs lorsque l'incitatif ne suffira pas pour assurer le traitement des situations d'insalubrité, l'intervention sur l'immobilier, obligation de réaliser des travaux, restructuration, déconstruction, en particulier pour traiter l'ensemble d'un îlot bâti. La convention OPARU prévoit la mise en œuvre de plusieurs formes complémentaires d'incitation financière, aide à réhabilitation de logements de propriétaires bailleurs et occupants, portée par la communauté d'agglos du Grand Guéret, avec un soutien financier de la ville de Guéret, prime à l'intermédiation locative portée par la communauté d'agglos du Grand Guéret, aide à la rénovation des façades d'immeubles portée par l'agglomération du Grand Guéret, et aide à l'accession à la propriété portée par la ville de Guéret. Donc l'aide à l'accession à la propriété prend donc place au sein d'un ensemble de mesures structurées fixées à la convention OPARU en réponse à la situation de l'habitat dans le centre ancien de Guéret. Les objectifs du dispositif prime à l'accession à la propriété. Donc le dispositif d'aide à l'accession à la propriété vise à encourager l'accession à la propriété des ménages occupants dans le centre historique afin de favoriser la mixité sociale et diversifier les statuts d'occupation. Les logements sont actuellement principalement locatifs, de petite surface et occupés majoritairement par des personnes seules précaires. Donc lutter contre la vacance et la dégradation des logements et positionner le centre-ville dans le parcours résidentiel des ménages et ainsi contribuer à redynamiser le centre-ville et ses commerces. Donc les modalités du dispositif.
Les modalités de l'aide à l'accession inscrites au règlement qui est joint en annexe visent à répondre aux objectifs établis. Le bénéficiaire de l'aide est l'acquéreur d'un logement situé dans le périmètre de l'OPARU. L'aide ne peut être accordée que pour un logement du type T3 ou plus, ceci afin de favoriser l'accès aux ménages. L'aide est soumise à un plafond de ressources. La référence utilisée est le plafond C de la grille de l'accession sociale coopérative, PLI Accession, donc se référer au tableau en annexe au règlement d'aide. L'aide est conditionnée à la réalisation de travaux dans le logement représentant au moins 10% du montant d'acquisition hors frais. Et l'octroi de l'aide engage le bénéficiaire à occuper le bien à titre de résidence principale pour une durée d'occupation minimale de 5 années afin d'éviter les effets d'aubaine. Cette aide est également conditionnée à la vérification préalable du bon montage financier du projet d'acquisition-réhabilitation. L'aide prend la forme d'une prime fixe de 10 000 euros par logement. L'objectif fixé à la convention OPARU est d'atteindre 10 aides attribuées sur la durée de l'opération. Le règlement d'aide annexé précise les conditions de recevabilité, d'attribution et d'instruction de l'aide. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver l'instauration du dispositif d'aide à l'accession à la propriété et le règlement de cette aide et d'autoriser Madame le maire à attribuer ces aides dans le cadre du règlement de l'aide.
Y a-t-il des questions, Monsieur Correa ?
Oui, je trouve que c'est effectivement, on trouve que c'est une belle aide. J'aurais juste deux questions. Alors, je vois type 3, pourquoi pas à partir de type 2, par exemple, mais encore une fois, c'est une interrogation. Enfin, voilà. Parce que je ne connais pas assez précisément la typologie des logements qui sont vacants et disponibles au cœur de ville. Voilà. Est-ce que c'est beaucoup de type 3, type 4, ou au-delà, ou est-ce qu'il y a aussi des types 2? Donc, c'est, pourquoi pas type 2? Ça, c'est juste une question. Après, deuxième chose, 5 ans. Est-ce que c'est pas un peu. Est-ce que 3 ans n'aurait pas été éventuellement suffisant? Parce que. Voilà, c'est aussi cette question-là. Et puis, deuxièmement, quand on prend. Enfin, dernièrement, pour terminer, pour la notion d'habitabilité sur un quartier, nous, on avait remarqué qu'il y a aussi tout ce qui est annexe, environnement, autour, notamment, on a la chance d'avoir le square Joran qui a été réhabilité et qui est fermé. Et donc, est-ce qu'une condition aussi, finalement, qui coûte peut-être pas grand-chose, voire rien, c'est-à-dire que le laisser ouvert plus tard le soir ou le laisser ouvert carrément en permanence n'est pas aussi de permettre à des gens de venir habiter en cœur de ville et notamment pour pouvoir profiter du parc sans qu'il soit effectivement aller voir que les portes fermées, y compris le dimanche parfois, etc. Donc, la notion d'habitabilité, au-delà, plus loin que ce qui est proposé là, c'est aussi de l'environnement restreint du quartier et le bien-vivre dans son quartier. Et le square Joran en fait partie, on dit ça parce qu'effectivement, nous, ça avait été des demandes qui étaient remontées, mais de pouvoir en profiter ben, en permanence, quoi, quand les gens le veulent. Quoi.
Oui, ben, le square Joran, pourquoi pas. Après, si les lieux sont respectés, s'il n'y a pas de dégradation, pourquoi pas le laisser ouvert plus longtemps, aller faire un essai. Après, de type T3, c'était vraiment parce que l'idée était de ramener des ménages avec des enfants dans le centre et de ne plus avoir de personnes seules qui pourraient avoir des logements, voilà, même avec, des fois on a des gens qui sont seuls mais qui ont des logements avec deux chambres. Donc là c'est vrai que T3 ou plus, c'était vraiment pour essayer de cibler cette population précise de familles. Voilà, c'était ça l'idée. Et après la durée, ben, c'était 5 ans, 3 ans. Hein. Ouais, c'était...
C'est une... On teste hein, cette mesure. Oui. Peut-être que ce règlement va être amené à évoluer quand on en fera un petit peu l'évaluation sur un an. C'est vrai, on est parti sur 5 ans.
Oui, 10 dossiers sur 5 ans.
Essayer d'avoir un petit peu de stabilité aussi sur le cœur de ville. Ouais. Mais bon, c'est peut-être des choses à évoquer quand on fera le bilan de l'année, peut-être. Mmh. Voir comment ça a marché et si ça a été un obstacle, cette durée de 5 ans. Mmh.
Et juste pour terminer, j'entends sur le square, hein, parce qu'on nous a expliqué qu'il fallait le fermer, il y a des dégradations, il y a effectivement bon, des choses qui s'y passent. Mais en même temps, des gens qui peuvent revenir en cœur de ville et qui vont mettre de l'argent dans un appartement, qui vont rénover, etc. et tout ça, ils ont un peu de mal aussi peut-être à entendre que ben, on met de l'argent public sur un truc, puis il est fermé parce qu'on ne veut pas l'abîmer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon,
oui,
voilà, c'est beau. Alors, quand quelque chose qui est beau, ça se dégrade quand même moins facilement, on va dire ça comme ça. Mais j'entends. Est-ce qu'on peut trouver un bémol pour qu'il soit quand même ouvert?
Rien n'est figé, hein. C'était oui, comme oui, ça. Non, ça, ça peut évoluer. C'est vrai qu'on n'est pas.
Il faudrait tester fait, aussi, peut-être.
On ne s'est pas posé la question. Il a toujours été fermé le soir. Et c'est je crois que. On a pris.
Il est toujours fermé le soir. C'est pour ça qu'on vous le redit, parce que ça nous remonte aussi. Ça donc peut-être qu'on pourrait expérimenter le fait qu'on puisse aussi en profiter l'été.
Non, non, mais absolument.
Pourquoi pas? Pourquoi pas?
Oui,
c'est vrai. Ça pourra être expérimenté.
On va, les services vont prendre en note pour qu'on puisse le laisser ouvert.
D'accord.
Thierry.
Oui.
Du coup, il n'y a pas d'abstention, pas d'opposition.
Oui, pour rebondir sur l'intervention de Monsieur Correa, s'agissant de cette occupation minimale de 5 années, on comprend l'idée d'éviter effectivement les effets d'aubaine. Bon, le règlement, c'est une élaboration, comme vous le dites, il sera amené à évoluer. Je pense qu'effectivement, il faut éviter.